Bonsoir chers auditeurs, vous êtes bien sûr Bonjour Turbine, émission produite par le Media Lab. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 74e opus en direct sur Station B à Caen et en différé sur Radio Pulse à Alençon. Alors évidemment, si vous avez raté le rendez-vous radiophonique, en podcast sur l'audioblog Arte, Deezer et Spotify. Alors comment aujourd'hui, dans ce monde de chiens, ne pas parler de cet animal sacré, l'espèce qui accepte encore d'être considérée comme notre meilleur ami, celui qui nous donne un amour inconditionnel malgré la noirceur de notre âme. Évidemment, je parle du compagnon de route de Sébastien, de Boule, de Tintin ou encore de Didier. J'évoque le canidé préféré de Mitterrand. Ce soir, on parle de nos amis, les chiens dans Bonjour Turbine. Alors cette semaine, nous jouons en équipe réduite. Bien que nos absents, Léna et David, nous ont laissé une petite pastille sonore en cadeau, donc je vous présente quand même l'équipe du soir. Jonathan à la co-animation, comment vas-tu?
Bonsoir tout le monde, et eh bien écoute, ça va bien.
Tu as l'écro?
Oui, j'ai l'écro.
Ouais, ouais, on essaye de faire des vannes sur le champ lexical du chien, tu l'as compris.
Ouais, j'en ai pas d'autres. C'est une émission qui a du chien peut-être?
C'est une émission qui a du chien, voilà. Alors nous avons également le fidèle Alain, comment vas-tu?
Salut Thomas, je vais bien. Fidèle, oui, le fidèle chien de l'émission.
C'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est pas ce que j'ai voulu.
Il y avait une marque de bouffe pour chien qui s'appelait Fidèle. Je sais pas si ça existe toujours.
Alors, j'en ai aucune idée. Peut-être que notre invité pourra nous le confirmer tout à l'heure. Et nous avons également notre technicienne, elle aussi très fidèle, Marion.
Waf waf.
Forcément, il fallait que quelqu'un la fasse. Alors, avant d'accueillir notre invité du soir, Dakota Gauthier de l'association et école de guide de chiens à vue de truffe, on débute cette émission en jouant à la baballe à notre manière avec un quiz proposé par Jonathan.
Pour lancer le sujet, je vous ai préparé un quiz aux petits oignons, comme on dit, autour du toutou que j'ai appelé le toutou quiz.
Oh.
Tout le monde peut jouer, même toi Marion si tu veux.
Merci.
Alors je vais vous poser plusieurs questions et à gagner un chèque d'une valeur de 1000 euros pour réaliser tous vos achats de Noël. Mais c'est un chèque en bois, bien entendu.
Aïe.
Alors, première question. Quelles sont les trois races les plus adoptées en France en 2023? Une petite idée.
Les cockers.
Non.
Moi je dirais qu'il y a du berger australien là-dedans.
Ouais, bien joué. C'est le chien le plus adopté en France en 2023. C'est le chien préféré des Français depuis plusieurs années.
Waouh.
Le Golden Retriever.
Le Golden Retriever. J'espère que tu n'auras pas les réponses sur mon ordinateur, Alain.
Non, mais
c'est un bruit de chien.
J'en ai eu un.
Ouais, le Golden, ouais, qui est le chien le plus connu au monde, je pense. Et Alain, est-ce que tu sais d'où ça vient, Retriever?
Retriever, non, pas du tout.
Ça vient de l'anglais retrieve, parce qu'à la base, c'est un chien de chasse pour le gibier d'eau.
D'accord.
D'où son amour pour les flaques, les rivières et la gadoue. Donc ceux qui en ont un, ils pourront confirmer.
Je confirme qu'il est rentré dégueulasse dans la maison. mais il était adorable, un peu bébête, mais adorable.
Voilà,
Tu nous en parleleras d'ailleurs dans ta chronique tout à l'heure.
Non, c'est un autre animal. Enfin, un autre animal. Une dame, une demoiselle.
Ok. Et la troisième, c'est un petit chien cette fois-ci. Troisième place.
Bichon ?
Non, c'est un petit molosse. Un petit molosse.
Le fox terrier ?
C'est le Staffy.
Le Staffy, ouais, ah ouais.
C'est le cousin de l'American Staff. Les gros chiens avec des grosses mâchoires.
Assez musclé alors.
C'est en plus petit, ouais. C'est un plus petit et qui est c'est un chien très gentil, vif et qui a tendance à être un peu pot de colle aussi.
Genre chien de police secrète, quoi. C'est un chien de policier, mais qui passe inaperçu, quoi.
Oui, il est tout petit. Donc voilà les trois chiens les plus adoptés en France et c'est aussi les chiens les plus abandonnés. Donc parmi ces chiens les plus abandonnés, on retrouve les chiens de berger, donc les malinois, les bergers allemands, les border collies. On retrouve aussi des labradors, les staffs, les huskies et les chiens de chasse. La plupart, ce sont des chiens qui nécessitent énormément d'être stimulés. Sans ça, ils détruisent des choses dans la maison, ils peuvent être agressifs ou même déprimés. Donc avant d'adopter, ne vous laissez pas influencer par les chiots, tout mignons, car une fois qu'ils deviennent adultes, ils ont besoin de beaucoup d'attention. Et là, on enchaîne sur la deuxième question, un peu moins fun. Savez-vous combien d'animaux ont été abandonnés en France en 2023? Ah, une centaine près, c'est dégueulasse de dire ça, mais...
12.
Ah,
ça serait tellement beau.
Alors, il me semble avoir lu qu'il y avait genre 500 000 chiens, je dis peut-être une bêtise.
Non, ça c'est pas le vrai.
Du coup, je dirais, allez, 10%, 50 000.
C'est presque ça, ouais. 44 844. Donc l'année dernière, qui ont été abandonnés. Donc il y a
un beau chiffre.
28 000 chats, 13 000 chiens et 3 000 nacs, équidés et animaux de la ferme. Donc c'est une augmentation de 650 par rapport à 2022. Et selon la SPA, la plupart des abandons ont pu être évités avec une adoption plus réfléchie. Donc ça revient à ce que je disais avant. Et parmi ces abandons, on comptabilise aussi les cas de maltraitance. Donc les chiens qui sont enlevés à la propriétaire pour maltraitance. Mais le point positif en parallèle, c'est que 40 587 animaux ont trouvé une nouvelle famille en 2023.
Quand même.
Donc c'est le petit point positif. Et là, troisième question. On va déconstruire un petit peu les clichés. Quelles sont les races qui mordent le plus?
Les Thomas.
Les Thomas, ah Thomas, je sais pas. J'ai jamais été mordu.
Le chien qui veut payer à son de porte, le teckel.
Ah oui, le teckel, il en fait partie, mais il est quand même assez loin. Okay. Les trois premiers, c'est des chiens très, très présents dans les familles françaises.
Le border collie?
Non, les trois premiers, c'est le berger allemand.
Ouais, j'aurais dit
en deuxième, c'est le labrador. Donc on pense que c'est un chien qui est très gentil, mais qui peut mordre aussi. Et les Jack Russell en troisième.
Ok.
D'accord.
Donc voilà, c'est des chiens. Alors c'est comme quoi la race, c'est pas ce qui fait justement le fait qu'ils mordent, c'est surtout aussi l'éducation, leur vécu et la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais il y a aussi l'éducation des gens qui approchent ces chiens-là qui est importante à souligner pour justement avoir un meilleur rapport avec les chiens et éviter toutes ces morsures. En France, chaque année, il y en a à peu près 500 000, mais la moitié ne serait pas déclarée. Et 75% Et 75% des morsures graves sont faites sur des enfants. Donc souvent, c'est dû à une mauvaise appréhension de la situation, qu'on a un chien qu'on embête, et le chien qui se sent agressé, qui mord l'enfant. Voilà, donc c'est pas très fun comme quiz, mais on va passer
non,
à la quatrième.
C'est pédagogique.
Voilà, c'est pédagogique. Et quatrième question, bon, pour revenir un peu sur l'espace public normand, petite question sur la ville de Caen. Sur 42 villes de plus de 100 000 habitants, à quelle place figure-t-elle dans le palmarès des villes où il fait bon vivre avec un chien?
Je réponds pas, je connais la réponse. Ouais, mais...
12.
Non, c'est beaucoup plus mauvais que ça. Elle est 36e.
Sur 42 villes de
plus de 100 000 habitants.
Alors,
donc pour comprendre cette 36e place, il y a plusieurs critères. Donc l'accessibilité, donc se déplacer facilement avec un chien, la présence de caniparcs et d'espaces verts. Il faut savoir qu'il n'y a aucun caniparc à Caen. J'ai vu ça, il y a zéro caniparc.
Ah ouais, ok.
Après, ils prennent en compte la propreté. Et là, Caen là-dessus est super. Donc des sacs à déjection disponibles, la propreté générale. Et là aussi où ils sont mauvais, c'est sur la sensibilisation, donc les actions menées pour favoriser le bien-vivre ensemble entre propriétaires de chiens et les autres. Et donc les premiers, c'est Lille, qui ont une note de 16,2 sur 20, et c'est la voisine Havraise, elle est 7e.
Ah
donc,
ouais,
elle a fait un bond de 13 places au classement par rapport à l'année dernière.
Comme quoi, on a des choses à envier au Havre.
Eh oui, et pas que le port.
Eh ben, merci beaucoup, Jonathan. C'était très instructif, ce quiz. Eh ben, je vous propose de passer à notre gimmick de l'émission, les capsules pédagogiques et véridiques, les CPV. Pour cette première CPV, je vous propose un rappel historique. Comment le chien est devenu chien. Alors, comment est-il devenu le meilleur ami de l'homme? En fait, le chien, c'est un loup qui a été domestiqué. Alors, les scientifiques ont découvert, en comparant le patrimoine génétique avec le loup, le coyote et le chacal, et avec le loup, il y a 99% de gènes communs. Alors, il se dit que la domestication s'est opérée entre moins 30 000 et moins 15 000 avant Jésus-Christ. Alors, c'est le premier animal domestiqué par l'homme, donc bien avant les chevaux, les lapins et les autres. Alors, pourquoi? eh bien, les loups et les hommes partageaient la même niche écologique. Donc, c'est-à-dire qu'on vivait dans les mêmes zones géographiques. On se côtoyait pas mal et surtout, on était en concurrence pour la viande. Et alors, le fait que les premiers humains laissaient pas mal de carcasses, car ils ne mangeaient pas tout, les loups mangeaient les restes et c'est là que la cohabitation est née. Alors, très vite, les humains ont compris que le loup serait un bon allié pour la chasse. Donc, ils ont commencé à élever des louveteaux. Et à force de se faire mordre, eh bien, ils ont fait de la sélection en ne gardant que les plus gentils, que les plus beaux, que les plus doux, et après des milliers d'années, ça donne des chiens. Mais alors pourquoi certaines races de chiens ne ressemblent plus du tout aux loups ? Eh bien parce que la domestication engendre des changements comportementaux, mais aussi morphologiques. Alors aujourd'hui, on compte quand même plus de 400 races de chiens, ce qui en fait une des espèces les plus diversifiées au monde. Alors pourquoi autant ? Eh bien parce qu'on les utilise pour plein de choses, pour sauver des gens, pour garder des troupeaux, pour aller à la chasse, et ce qui a provoqué des changements morphologiques énormément différents. Et alors, c'est vraiment à partir du 19e siècle que les fans de chiens ont commencé à en faire d'autres pour plaire à mamie. Et c'est comme ça qu'on obtient Carlin, une espèce hyper fragile qui court le risque de faire une crise cardiaque en se faisant, par exemple, surprendre par le bruit de son pet. J'ai complètement raté ma blague, c'est terrible. Mais alors, comment le chien est-il devenu le meilleur ami de l'homme ? Eh bien, la raison, c'est l'ocytocine. C'est une hormone qui est responsable de l'attachement. Et aujourd'hui, quand on regarde droit dans les yeux de son chien, eh bien, il y a une sécrétion d'ocytocine.
Et c'est le moment de se glisser dans la peau d'un chien avec la chronique de Léna qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui a enregistré ça pour nous.
Je tourne autour de mon humain, je lui saute dessus, je le siffle. La raison, j'ai faim. Il ne réagit pas. Alors je gratte la porte, j'aboie et je bouffe ses chaussons. Ça a marché. Il se réveille, me fait les gros yeux, m'embrasse et me glisse des croquettes à la crevette dans ma gamelle qui fait gling gling contre mon pendentif en métal. Ce pendentif, c'est pour pas que je me perde. Ou plutôt, pour qu'on me ramène chez l'humain. Il m'arrive souvent d'être dissipé, et c'est pas sans effort de ma part. C'est effrayant l'espace public. C'est bon, l'humain a fini son café. Il roule sa clope, prend son téléphone, et on sort. Bon, on en parle de ça. Déjà, pourquoi tu scrolles alors qu'on est ensemble ? Ok, je sais. Quand je fais mes besoins, c'est gênant pour toi, comme pour moi. Je kiffe pas trop qu'on me mate la crotte, ça me déconcentre. En plus, tu mets mal à l'aise quand, en sortant ton sac en plastique, tu grimaces un Mais ça te dérange pas, ça, quand à 4h du matin, tu dessines un smiley avec ton urine sur le bar d'en face ? Je lâche donc mes belles créations en plein trottoir. Comme ça, il ne peut pas m'oublier. La balade se continue. Je renifle l'air pur du matin. Et la vache, ça pue. Et c'est étouffant. Il ne fait même pas attention, ce boug. Je me suis renseignée et en 1v1, une cigarette peut détruire un petit chien. Je retiens donc ma respiration. Mais j'avoue, j'aime grailler tout ce que je vois. Et je vous garantis qu'un mégot, c'est vraiment dégueulasse. Et pas moins dangereux. On arrive bientôt au parc canin. J'y retrouve mes potes. On court, on papote et on gossipe un max sur nos humains. La dernière, c'est Rex, qui nous raconte qu'il est resté enfermé dans une voiture en plein cagnard au milieu d'un parking. C'est une vieille affolée qui a appelé les pompiers. Ils l'ont libéré et condamné son représentant légal à verser de l'argent. Django, il n'a pas l'air choqué. En même temps, lui, il a connu la tôle, la vraie. Enfermé chez un humain nuit et jour, à manger des cailloux et dormir sous le goudron. Il n'en parle jamais, mais ça se voit à ses traits qu'il a vécu. Ce qui est le plus visible chez lui, c'est qu'il n'a plus de poils autour du cou. À force de se débattre, son collier l'a irrité. Avec l'humidité et le frottement, les réactions allergiques se sont occupées de lui. Il semble déconnecté et ne parle de ça qu'avec Lola. Je crois qu'elle lui fait du bien. Ils se sont rencontrés au refuge du bout de la rue. Lola, elle vit maintenant dans une famille avec 4 enfants. Au début effrayée, maintenant elle va aller chercher tous les jours à l'école. Elle est résiliente envers les humains. Dans son ancienne famille, elle finissait teinte en rose ou habillée en léopard. Tondu par-ci, par-là, chaussures, colliers, chouchou, l'effet de mode des rues qui se répercutait sur son beau pelage blanc. Maintenant, les enfants la coiffent chaque matin et son poil est plus doux que jamais. Elle en remercie le ciel tous les jours. Ça tape dans les mains au loin. Je retourne près de mon humain. On marche calmement côte à côte. Je me perds dans mes pensées, lui sur son écran, mais je suis rappelée par les sirènes des voitures qui me tapent dans les tympans. Je déteste ça. Je m'arrête, ferme les yeux et me crispe. À ce moment, une voiture arrive à toute vitesse. L'humain ne voit rien. Pour le prévenir, je me stoppe net, ce qui tend la laisse qui nous sépare. Dans la panique, j'aboie aussi fort que possible, et en 2 secondes, il lâche son téléphone, s'élance sur moi et se jette sur le sol trempé du matin. Les bras dans les pattes. Nos cœurs battent à toute vitesse. Il me serre de toutes ses forces et lâche une larme sur mon oreille. Ces quelques secondes ont tout basculé. Comme un rappel à l'ordre. Pour lui, comme pour moi. Avec le temps, nous avions perdu la valeur de notre relation. Je regrette qu'il ait fallu un tel événement pour nous rapprocher. Aujourd'hui, nous formons une belle équipe, plus soudée que jamais. Je me sens privilégiée. Mon humain n'est pas parfait, moi non plus. Mais comme dans toute relation, on apprend à se connaître. Alors attention à vos chiens et à vos humains.
Encore une très belle chronique de Léna dans la peau d'un chien. C'était vraiment magnifique. Alors elle n'est pas avec nous, mais en tout cas on pourra la gratifier de cette chronique quand on la reverra. Et on enchaîne tout de suite avec Jonathan qui lui a travaillé déjà depuis quelques jours pour préparer cette émission et vous allez comprendre pourquoi.
Le week-end dernier, j'étais présent au Noël des animaux organisé par le refuge de Verson. Le refuge SPA de Basse-Normandie a été construit en 1997 et accueille à l'année une cinquantaine de chiens, mais aussi des chats, des lapins, des furets et autres rongeurs qu'on appelle les NAC, qui veut dire...
Nouveaux animaux de compagnie.
Voilà,
tu l'as dit tout à l'heure en plus.
Pour les plus courageux d'entre nous qui n'ont pas eu peur de braver la tempête, on pouvait y retrouver plusieurs exposants comme un éducateur canin, une ostéopathe, une photographe ou encore plusieurs créatrices d'accessoires pour animaux. L'occasion pour moi d'aller à la rencontre d'Emma en service civique au sein du refuge et chargée de la partie communication pour lui poser quelques questions. Tout d'abord, comment fonctionne le refuge ?
Alors le refuge fonctionne avec 6 salariés, donc il y a plusieurs soigneurs et une personne qui gère l'accueil, la compta, etc. On a quelques stagiaires aussi et des jeunes en alternance. Après, le refuge fonctionne beaucoup, surtout avec les bénévoles, qui sont une dizaine sur site la semaine et qui sortent les chiens tous les jours, du lundi au samedi, de 14h à 17h30. Et on a quelques bénévoles pour les chats aussi, pour les aider à se sociabiliser, à prendre confiance en eux, pour les plus craintifs.
Alors bien entendu, le refuge est une association, d'où l'importance des bénévoles. Mais comment peut-on devenir bénévole ? Quelles sont leurs missions ? Et faut-il une formation ? La réponse d'Emma.
Vous vous présentez au refuge. Ensuite, on vous donne un dossier d'inscription de bénévolat. Donc il faudra remplir et faudra une pièce d'identité et l'attestation d'assurance responsabilité civile. Voilà, en cas d'accident, sachant que nous, on prend des bénévoles que majeurs. Voilà, les mineurs ne sont pas acceptés, même accompagnés, parce qu'en cas d'incident, pour des questions d'assurance, on ne peut pas prendre de mineurs. En fait, vous êtes plusieurs après-midi accompagnés avec des bénévoles qui sont là pour vous expliquer comment on sort les chiens, le fonctionnement du planning, comment on approche un chien qui parfois a un passé un peu sombre. Et une fois que, que les bénévoles vous sentent aptes à sortir le chien tout seul, et ben là, vous êtes admis en tant que bénévole.
Alors si vous avez du temps, ne serait-ce qu'une heure dans la semaine et que vous souhaitez rendre heureux quelques animaux, vous connaissez la démarche. C'est important de préciser que vous pouvez y aller quand vous voulez. Il n'y a aucune contrainte de récurrence ou de temps passé, c'est selon vos propres dispos. Maintenant que vous êtes bénévole, ou si vous ne pouvez pas vous engager en tant que tel, vous voulez peut-être adopter. Voyons avec Emma les modalités d'adoption.
Alors tout le monde peut adopter à condition d'être majeur, bien sûr. Après, donc, faut pas hésiter à venir au refuge, parce qu'il y a toutes les modalités pour adopter. Donc passer au refuge, voir nos pensionnaires, que ce soit chien ou chat ou NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, tout ce qui est lapin, etc. Il faut remplir une demande d'adoption. D'accord. Donc c'est une feuille qui n'engage à rien. Ça nous permet, nous, de voir si le mode de vie de la personne correspond aux besoins de l'animal, en fait. Comme ça, voilà. Si on voit que ça correspond, là, les gens partent en présentation avec l'animal. D'accord. Donc il faut qu'il y ait tous les membres du foyer, parce qu'il faut qu'il y ait l'accord de tout le monde. Okay. Sinon, il ne peut pas y avoir d'adoption. Et une fois que c'est fait, que la présentation s'est bien passée, là, il peut y avoir du coup une réservation de l'animal, à savoir qu'on ne peut pas repartir avec un animal le jour même. Parce que depuis la loi 2022, il y a un délai de 7 jours à respecter. Donc les gens lisent et signent le contrat d'engagement et de connaissance, remplissent la demande d'adoption, et le délai de 7 jours commence à partir de là, en fait. Ils règlent les frais d'adoption le jour J, et ils viennent chercher l'animal 7 jours après. Ça évite les adoptions coup de tête, en fait.
Et du coup, quels sont les frais à prévoir justement pour adopter au refuge, et que comprennent-ils ?
D'adoption pour un chien adulte, donc c'est 350 euros. Okay. Donc ils sont stérilisés, identifiés, vaccinés, la totale. Pour un chiot, ça va être 400 euros. Donc pareil, la stérilisation est prise en charge quand ils sont plus âgés. Okay. Et pour un chat, donc un adulte, c'est 230 euros. D'accord. Donc pareil, stérilisés, vaccinés, identifiés, ils ont le test sida et leucos qui sont faits. Et pour un chaton, c'est 250 €. Et pareil, la stérilisation est prise en charge. Et il faut un chèque de caution s'ils ne sont pas stérilisés. Donc pour les chatons et les chiots, il faut un chèque de caution. Donc 300 € pour les chatons et 500 € pour les chiots. Qui reste dans le dossier, en fait, qu'on n'encaisse pas. Okay. Et dès que la stérilisation est faite, comme quoi on a le justificatif, voilà. Là, on détruit le chèque. C'est pas le même prix qu'en élevage pour certains animaux, ça, c'est sûr. Et c'est surtout que tout est compris dans les frais d'adoption. C'est la stérilisation, la vaccination. Ouais. Alors que si vous achetez un animal, par exemple, sur le Bon Coin, même en don gratuit, voilà, ce qu'on cautionne pas forcément, hein, et ben, tous les soins que vous aurez à lui faire, donc stérilisation, vaccin, le test sida et leucos, si c'est un chat, par exemple, ça va vous revenir à plus cher. Ouais. Que adopter vraiment en SPA où tout a été fait, voilà.
Mais il me semble qu'il existe une opération pour inciter les gens à adopter des animaux plus âgés.
Donc les chiens et chats d'ailleurs, en opération doyen, c'est-à-dire que les frais d'adoption sont de 50 € et il y a 30 millions d'amis qui est partenaire du coup qui prend en charge jusqu'à 800 € de frais vétérinaires jusqu'à la fin de leur vie.
Alors n'oubliez pas les petits vieux, hein. Je sais qu'on est plus attiré par des petits chiots et des petits chatons tout mignons, mais les vieux toutous méritent aussi de finir leur vie de manière paisible. Si je résume, on a vu comment fonctionne le refuge, comment devenir bénévole et quelles sont les démarches pour adopter. Mais comment peut-on également aider le refuge ?
Faire des dons, donc, que ce soit financier, donc, par virement, sur Hello Asso. Sur nos réseaux sociaux, on a des liens où on peut cliquer pour faire du coup des dons, que ce soit tous les mois, annuels ou une fois de temps en temps. Venir au refuge, on a des boîtes à dons qui sont à disposition, on a des boîtes à dons même qui sont à disposition dans des entreprises ou des petites boutiques autour de Caen, qui du coup souhaitent aider la SPA, donc voilà, il y a possibilité de faire ça comme ça. On prend aussi les dons matériels, donc tout ce qui va être donc des dons de croquettes, pâtés, selon les besoins du refuge. Là on manque de litière pour chats.
D'accord.
Voilà, principalement des croquettes pour les chiens de petite taille. Ça, on en manque aussi. Voilà. Et puis, selon la période, ça peut être du lait maternisé pour les chatons, quand c'est la période des mises bas.
Ah oui,
vous pouvez parrainer un animal. Donc, c'est sur notre site internet, vous avez une section parrainage où vous pouvez donner tous les mois de l'argent pour justement aider le loulou à du coup, évoluer dans un meilleur environnement, entre guillemets, payer ses soins, l'alimentation, etc.
Alors vous avez noté, vous pouvez faire un don libre, mais aussi vous pouvez parrainer un animal et faire des dons matériels. Donc on n'oublie pas, en ce moment, un grand besoin de litière et de croquettes pour petits chiens. Alors maintenant qu'on est en période de fête, donc on pense aux cadeaux pour les enfants. Certains d'entre eux peuvent avoir envie d'une belle petite boule de poils à Noël. Mais c'est important de rappeler qu'adopter un animal, c'est une responsabilité qui vous engage sur plusieurs années et qu'en aucun cas, ça doit être un simple cadeau, mais un choix réfléchi et éclairé. Et terminons avec un dernier mot pour vous inciter, après mûre réflexion bien sûr, à adopter au refuge.
Eh bien, pas hésiter à passer au refuge, vraiment, ça n'engage à rien. Bien réfléchir, surtout avant une adoption, c'est très important parce que le nombre d'abandons augmente chaque année. Mais pas hésiter à passer, on a des chiens et des chats toute l'année, on a des nacs, donc les nouveaux animaux de compagnie. Voilà, y en a pour tout le monde. Et adopter en refuge, c'est faire une bonne action, c'est offrir la chance à un chien ou un chat qui a eu un passé difficile de trouver le bonheur, un foyer aimant et beaucoup d'amour.
Alors je remercie Emma et la SPA de Basse-Normandie pour leur accueil. Si vous le souhaitez, je vous laisse aller voir les animaux, les bénévoles et les salariés directement au refuge, mais vous pouvez aussi retrouver toutes leurs actus, les présentations des animaux disponibles à l'adoption et toutes les autres informations sur leur site internet ainsi que sur leur Instagram et leur Facebook.
Eh bien, merci beaucoup, Jonathan, pour cette émission, pour cette, pour ce reportage en immersion. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et alors, je vous l'annonçais en début d'émission, nous accueillons ce soir Dakota Gauthier. Il assure la coordination, la communication et le secrétariat au sein de l'association Vue de Truffe. Bonjour, bienvenue Dakota Gauthier.
Bonjour, merci beaucoup.
Eh bien, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Bon. Alors, tu es venu aujourd'hui dans Bonjour Turbine pour nous présenter À Vue de Truffe. Alors, une question se pose, est-ce que c'est une association en lien avec ces champignons prestigieux tant convoités par la cuisine française ?
Non, pas du tout. Alors, en fait, c'est un nom rigolo qui a été trouvé en 2007 par les fondateurs de l'association, qui est, dont notamment l'actuel directeur, du coup Stéphane Moreau, qui s'est aperçu qu'en Normandie, en fait, il n'y avait pas d'école de chiens guides pour personnes malvoyantes ou non-voyantes, et puis qui a décidé de monter sa propre structure parce qu'il était déjà éducateur de chiens guides et puis il a voulu fonder la sienne en Normandie.
D'accord. Alors, quand tu dis, on parle justement d'accompagnement de déficients visuels, donc c'est malvoyant ou non-voyant, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est les deux. En fait, on a l'image du chien guide qui accompagne la personne vraiment totalement aveugle, donc non-voyante. Mais en fait, c'est aussi pour des personnes, on peut aussi accompagner des personnes malvoyantes avec plusieurs pathologies différentes, en fait.
D'accord. Et alors, du coup, en quoi consistent les missions de cette association, de cette école ?
Donc la mission principale, c'est d'éduquer, de remettre et de suivre gratuitement des chiens guides à des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc il y a toute une éducation à faire, donc une pré-éducation, ce qu'on appelle une sociabilisation, en fait, pour le chiot, dès qu'il arrive à l'association à 3 mois. Et après, donc il est en famille d'accompagnement, il est suivi par les éducateurs, et puis à 15 mois, il va vraiment entrer là à l'école en éducation. Donc du lundi au vendredi, en fait, il arrive le matin à 9h, il fait sa journée de formation et il repart en famille le soir à 17h parce qu'en fait, il n'y a pas de chenil chez nous. Donc toute la semaine, il fait ça jusqu'à ses 2 ans où en fait, après, il est prêt à être remis à son bénéficiaire avec qui il a fait des essais, il a commencé à apprendre à le connaître, etc.
Alors, je suis un peu surpris parce que j'ai lu sur votre site que vous annoncez un nombre de 18 833 personnes déficientes visuelles en Normandie. Là, tu le disais tout à l'heure, l'asso, elle a été créée en 2007. Avant ça, il n'y avait pas d'association qui portait ce genre de mission. Comment ça se fait ? Et puis, comment on faisait avant ?
En fait, il y a une dizaine d'écoles de chiens guides en France qui sont un petit peu réparties sur l'Hexagone. Et en fait, les personnes, malheureusement, doivent se déplacer soit dans des écoles qui sont les plus proches. Alors après, surtout dans des départements un petit peu plus reculés comme la Manche ou l'Orne, où il n'y a vraiment pas beaucoup d'accompagnement ou de structures associatives ou autres publiques pour accompagner les personnes déficientes visuelles, mais aussi en situation de handicap dans d'autres types de handicap. Et puis après, en fait, c'est pour ça que nous, on essaie d'élargir maintenant notre rayon géographique d'intervention auprès des personnes déficientes visuelles.
Ouais, donc il y avait un vrai besoin. Alors, vous avez reçu la labellisation par la préfecture du Calvados en novembre 2022, école de chiens guide d'aveugles. On imagine qu'il y a des règles, qu'on ne peut pas monter une école comme ça. Vous êtes accompagné par qui ? Comment ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la réglementation qui entoure un peu tout ça ?
Alors, en fait, nous, on est une école indépendante. On était déjà reconnus, entre guillemets, comme école de chiens guides, parce qu'il y a tout un protocole à suivre quand même de qualité, entre guillemets, de la remise qui va attester que le chien a été éduqué par un éducateur. Les éducateurs de l'école sont diplômés d'État, donc il y a vraiment un diplôme spécifique. C'est des éducateurs canins à la base, mais qui ont une spécificité chien-guide. Et puis après, nous, la labellisation de 2022 qu'on a reçue, c'est... Ça atteste qu'on respecte bien la charte définie par le Code de l'action sociale et des familles. Donc ça veut dire que voilà, on sait comment prendre en charge les chiens, on sait comment prendre aussi en charge les gens, les bénéficiaires. Et puis c'est comme ça que voilà, on essaie de les accompagner au mieux et de trouver le meilleur chien pour eux.
Et alors du coup, tu parlais du fait qu'il y avait des éducateurs dans l'équipe, donc professionnels. Ouais. Donc ça signifie qu'il y a quand même une équipe de salariés. Toi-même, tu dois être salarié.
Ouais.
Alors comment ça se passe ? Vous êtes combien de salariés ? Comment ça s'organise ? Et puis surtout, où vous trouvez les financements justement pour maintenir cette association à flot ?
Alors aujourd'hui, on est arrivé à 6 salariés et on a aussi, alors on est 4 éducateurs. Enfin, il y a 4 éducateurs. Mes collègues sont 4 éducateurs de chiens guides avec chacun des spécificités sur notamment le suivi vétérinaire ou alors un autre qui va faire plus le suivi des bénéficiaires ou des familles d'accompagnement qui accueillent des chiens, des futurs chiens guides. Et puis après, donc notre collègue instructeur en locomotion, Clément, qui en fait lui va tester l'autonomie pendant le processus de demande, il va tester l'autonomie à la canne blanche de déplacement en fait, de la personne, voir un petit peu si elle a besoin d'une rééducation, d'une remise à niveau par rapport à tout ce qui est déplacement à la canne, technique de traversée, repères spatiaux, etc. Parce que c'est vrai qu'en fait le chien guide, c'est pas un GPS, il va pas être magique, il va pas nous guider sans que la personne puisse aussi être capable de lui donner des instructions.
Ouais, faut savoir travailler avec.
Voilà. Et on a aussi une psychologue clinicienne qui elle-même est non-voyante et bénéficiaire de chien guide. Et c'est elle qui va aussi prendre en charge les personnes pour étudier leurs demandes, mais aussi les modalités, les motivations qui les ont poussées à faire une demande de chien guide. C'est vrai qu'en fait, il ne faut pas forcément avoir envie d'un chien guide pour ne pas se sentir stigmatisé à la canne. Il faut aussi savoir que un chien, c'est un nouvel arrivant dans la famille, c'est une nouvelle aventure qui s'inscrit aussi au niveau de la personne, au niveau de sa situation, et que voilà, il faut que la personne en fait soit prête à accepter aussi son handicap.
Et alors du coup, justement, sur le modèle économique, comment ça fonctionne? C'est subventionné? Comment ça fonctionne? Ouais.
Alors les subventions, on remercie déjà toutes les communes et les structures publiques qui nous aident, parce que c'est toujours on a des structures publiques qui, à hauteur de 10% de notre budget en fait, nous aident, mais on a un grand partenaire principal qui est l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, qui nous aide vraiment beaucoup dans nos projets, dans le fonctionnement, etc. Donc c'est une aide vraiment super. Et puis le reste, c'est des dons aussi de particuliers, la générosité du public, en fait, les gens, à travers la communication en fait qu'on peut faire, à travers les manifestations aussi qu'on peut faire dans un petit peu autour de Caen et dans la Normandie, en fait, on tient des stands généralement sur une journée ou alors même sur une semaine, des fois dans une galerie marchande, on fait de la sensibilisation, et on va aussi dans les entreprises, les écoles, les structures un petit peu différentes, diverses et variées pour faire connaître le handicap visuel et le chien guide.
Et alors du coup, une dernière question avant qu'on se focus justement sur le quotidien des chiens avec Jonathan. En termes de chiffres, ça donne quoi? Combien de chiens guides sont formés? Combien de familles d'accompagnement
Aujourd'hui, on arrive à une cinquantaine de familles d'accompagnement, donc qui sont divisées en plusieurs types. En fait, il y a les familles d'un an qui prennent en charge les chiots, les familles du soir, donc qu'on appelle familles du soir dans notre équipe, c'est les familles qui vont s'occuper des chiens qui sont en éducation, qui les accueillent le soir et le week-end. Et puis les familles relais, en fait, qui prennent le relais en fait de la famille principale. Et puis ensuite, la suite de la question, c'était
le nombre de chiens de chiens guides.
Ouais, le nombre de chiens guides remis en fait par an. Maintenant, on en arrive à 10-12 par an. Avec les 4 éducateurs qu'on a, en fait, c'est un rythme de croisière qui est plutôt satisfaisant pour le pouvoir derrière assurer aussi le suivi. Parce qu'en fait, il s'agit pas que de remettre des chiens guides, il faut aussi les suivre et puis pouvoir s'assurer que le binôme maître déficient visuel et chien guide est encore efficace et puis reste performant. Quoi.
D'accord.
Parce qu'on adore les chiens et que c'est une émission qui ne manque pas de chiens, on s'écoute tout de suite les Fatal Picards.
Punk à chien, moi je suis un punk avec un chien. Même mon chien, il est mort d'un cancer de la truffa. C'est bête, je l'aimais bien, il s'appelait Bichous, il savait tondre la patte et compter la monnaie et faire la différence entre un skin et un vieux. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un animal, de préférence un chien pour punk à chien. Ah, il vous reste plus de chien, il vous reste que des chats pour vieil achat. Bon bah je vais vous prendre ça, le siamois s'est vendu par deux. Punk à chat, moi je suis un punk avec un chat. Mais mon chat, il est mort d'une cirrhose des moustaches. C'est fait, je l'aimais bien, il s'appelait Fuck You, il savait se mettre en boule pour attendrir les gens et faire la différence entre un skin et un rat. Bonjour monsieur le vendeur, je voudrais un animal, de préférence un chat pour punk à chat. Ah, il vous reste plus de chat, il vous reste que des poules pour papa poule. Bon bah je vais vous prendre ça avec la laisse à clous. Punk à poule. Je suis un punk avec une poule. Mais ma poule, elle est morte d'un infarctus du bec. C'est bête, je l'aimais bien, elle s'appelait Nos Futurs. Elle savait pondre des œufs dans les toilettes du squat et faire la différence entre un skin et un mur. Bonjour, monsieur.
monsieur le vendeur, je voudrais n'importe quoi, de préférence vivant, qui tienne jusqu'au printemps. Ah, il vous reste plus rien à part un vieux canard blessé. Vous dites qu'il nettoie dans les coins, bon bah je vais vous prendre ça. Avec un bonnet pour ses oreilles. Ah, peu canard, 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 peu canard.
C'était Punk à Chien des Fatal Picard. Vous êtes toujours sur Station B pour la 74e de Bourgeon Turbine et aussi en différé sur Radio Pulse à Alençon. Ou peut-être que vous nous écoutez en podcast. Avec moi autour de la table, Thomas, Alain et Dakota Gauthier, notre invité du jour, sans oublier Marion à la technique. Aujourd'hui, on parle des toutous et on repasse à la deuxième partie de l'interview. Alors du coup, tout à l'heure, on parlait du fonctionnement de l'asso à vue de truffe. Et dans la deuxième partie, en fait, moi, je voulais aborder le sujet du chien et de son parcours. Et du coup, bah, ma première question, c'est comment le chien, il arrive jusqu'à l'association ?
Comment... Alors, en fait, c'est la plupart du temps, c'est quand même des élevages en fait avec ouais. lesquels on travaille depuis pas mal de temps, donc on les connaît, on sait comment se passe leur travail, et puis on sait que c'est sérieux. Donc, ça peut être des fois des élevages du coin, donc normands, locaux, etc. Mais par exemple, pour les Golden Retrievers qu'on a, c'est un élevage qui est en Auvergne, à côté de Volvic, et en fait, on n'hésite pas à faire la route parce qu'on sait que c'est des super. C'est du super chiot, et puis on recherche surtout c'est un chiot qui soit stable, qui soit proche de l'homme et qui soit quand même assez capable de se canaliser assez vite. Parce que si c'est un chien qui va demander beaucoup trop de dépenses, etc., de détente, bah pour être chien guide, il serait malheureux. Donc en fait, c'est pas ce qu'on recherche, quoi.
D'accord, donc ouais, c'est une sélection en fait, vous les sélectionnez à l'avance, vous sélectionnez des élevages, quoi, c'est ça, ouais.
Bah, les élevages, maintenant, on les a trouvés parce que c'est vrai qu'on aime bien un petit peu regarder à droite à gauche aussi, on se tient au courant. Enfin, encore une fois, c'est les éducateurs qui se tiennent au courant. Mais c'est vrai que c'est pour le coup, c'est quand on connaît bien l'élevage, en fait, on sait qu'il y a. Il y a une qualité de travail qui est bien, le bien-être du chien est pris en compte et puis mis en avant surtout. Et puis voilà, on sait que c'est des super chiens qui après sont très bien avec leurs bénéficiaires. Donc en fait, tout se passe très bien avec ces éleveurs-là.
Et du coup, ils arrivent à 3 mois chez vous, c'est ça ?
Oui.
Et après, quel est leur parcours ? Après, comment ça se passe ? Vous les accueillez ? Ils partent tout de suite en famille d'accueil ?
Oui, alors en fait, bah, nous, il y a une sélection qui est faite parce que si, par exemple, sur une portée de 6-7 chiots, on va essayer de voir si on peut prendre les 3-4 qui correspondent le mieux au profil qu'on recherche par rapport au futur chien guide, en fait. Et puis après, on va rencontrer les futures familles d'accompagnement qu'on va un petit peu briefer de manière quand même très détaillée sur l'arrivée du chiot, l'apprentissage des premiers heures, de la propreté, de la solitude, de tout ce qui est bien-être en fait du chiot. Et puis derrière, le chiot arrive et en fait on les suit, on prend en charge la nourriture, les frais vétérinaires, etc., le suivi, tout ça fait par l'association, et on les suit à un rythme de 1 à 2 fois par mois. Puis après, ça s'estompe un petit peu, ça s'espace un petit peu au niveau des rendez-vous, parce que quand on sait que le chien va bien, se développe bien, tout se passe bien chez la famille, bah en fait, on espace un petit peu plus les rendez-vous jusqu'à l'entrée en éducation.
D'accord. Et du coup, quand ils sont en famille d'accueil, comme ça, pour développer les compétences, il y a un éducateur qui les suit, ou c'est justement les familles qui s'en occupent tout seuls pour.
Bah, les familles mettent en pratique en fait les conseils qui sont donnés par les éducateurs, et en fait, il y a des suivis et donc à l'école, des suivis chez la famille, et puis aussi des stages qui sont organisés par les éducateurs. Donc 1 à 2 fois par mois, des fois, ils font des stages avec une sélection de 4-5 chiens, 4-5 chiots qui ne sont pas encore en éducation, mais qui viennent dans un stage immersif un petit peu à l'école pendant 3 jours. Et en fait, pouvoir un petit peu déjà comment se comportent les chiots qui commencent à devenir adolescents un petit peu, et puis voir s'il n'y a pas moyen de déceler aussi peut-être malheureusement des choses de crainte qui peuvent être réglées et puis qui peuvent éviter la réforme du chien, quoi.
Ok, et du coup après donc comme tu disais tout à l'heure, ils viennent toute la journée, c'est ça? Après, quand ils sont plus grands, ils viennent à la journée. Et après, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, tous ces chiens, justement?
Alors, en fait, l'éducation au guidage, elle repose sur 4 axes. Ouais. Il y a vraiment l'obéissance, le déplacement, l'évitement d'obstacles et le travail de recherche. Donc l'obéissance, bah, c'est tout ce qui est les ordres qu'on va pouvoir lui donner sur les assises, ta place, etc. Il connaît déjà, donc c'est ce que la famille lui a appris. Mais après, il y a tout ce qui est les ordres, les lignes, par exemple les stops, c'est-à-dire faut qu'il s'assoie au passage piéton. Les lignes, c'est un peu un mot-clé pour désigner le passage piéton. Le siège, c'est trouver un siège dans le bus ou un arrêt de bus. Il y a vraiment le déplacement, c'est connaître sa gauche, sa droite, savoir marcher au harnais, savoir ressentir un petit peu les réactions de son maître ou de son éducateur. Après, l'évitement d'obstacles, c'est pouvoir un petit peu analyser une situation avec une voiture, une poubelle, même des gens, en fait, parce que nous aussi, en tant que personne, il ne faut pas oublier qu'on est des obstacles. Et puis le travail de recherche, c'est quand le trajet habituel est obstrué par des travaux, des choses comme ça, c'est trouver un trajet de remplacement, un trajet pour guider quand même toujours son maître en sécurité.
Oui, c'est impressionnant, tout ce qu'ils sont capables de faire. Et du coup, vous recherchez des familles d'accueil, j'imagine, pour accueillir les chiots, ou vous en avez que vous connaissez déjà qui...
On a déjà des familles qu'on remercie aussi, parce que sans elles, en fait, on ne pourrait pas faire nos actions. C'est des familles qui sont bénévoles, qui donnent de leur temps pour justement être là pour donner de l'attention aux chiots et aux chiens. Et puis c'est vrai que généralement, en fait, c'est bien de les associer à un acte qui est quand même un acte citoyen, et puis qui permet de pour eux aussi, pas forcément de partir sur 15 ans de la vie d'un chien. C'est vrai que des fois, on a des personnes qui sont jeunes retraités, par exemple, qui veulent rester un petit peu actifs après leur retraite. Et puis après, c'est vrai que quand ils ont 60, 65, 70 ans, repartir sur 15 ans de la vie d'un chien, c'est un peu compliqué. Donc en fait, c'est un peu une bonne alternative aussi. Et puis ils restent actifs. Et puis c'est des gens qui sont super. Donc c'est des super rencontres aussi de partage avec l'association. Et c'est vraiment des choses qui permettent de nouer des liens avec les chiens, mais aussi avec les gens.
Ok. Et comment vous faites pour justement assurer la transition entre la famille d'accueil et la famille définitive ? C'est pas trop traumatisant, et pour la famille et pour le chien, ce moment de...
En fait, il y a toujours... on va pas se mentir, hein, c'est toujours... C'est ce que disait une famille, c'est que c'est toujours un crève-cœur, parce que forcément, il y a le chien qui va partir, même si c'est fait de manière très progressive, parce que nous, on va... faire des essais avec la personne qui a fait la demande de chien guide. En fait, on fait plusieurs essais avec plusieurs chiens qui peuvent correspondre au profil de la personne. Et puis ensuite, quand le chien, on sait que ça va être celui-là, ça va être ce chien pour la personne. En fait, le chien va déjà dans plusieurs week-ends, en fait, de séjour d'acclimatation à l'environnement, à la personne, pour connaître la famille, connaître un petit peu la nouvelle maison. Et puis ça permet au chien de s'acclimater, mais aussi à la personne de se préparer, à la famille, de se préparer au départ du chien. Parce que surtout quand il y a des enfants, même si c'est souvent les parents qui pleurent le plus, en fait, après. Mais en fait, on a essayé de préparer quand même. Et puis, on fait en sorte qu'ils gardent le contact quand même avec le bénéficiaire. Parce que c'est normal, en règle générale, ils se donnent quand même des nouvelles. Ils se voient en dehors après. Et puis, ça se passe très bien.
Ouais, d'accord. Du coup, ils gardent un petit lien entre la famille d'accueil et la famille définitive.
Oui, c'est très rare quand même qu'il y ait des gens qui veulent couper, mais clairement, ils restent en contact.
D'accord. Et du coup, sur la vie quotidienne, moi, ma question aussi, c'était comment fait la personne justement pour lui laisser des moments pour décompresser pour le chien ? Comment il s'organise ? Parce qu'il ne peut pas le laisser lâcher dehors comme ça, pour qu'il puisse courir
Alors, en fait, le chien guide, il a vraiment besoin de beaucoup de moments de détente, parce que pour être heureux et puis pour aussi être efficace dans le guidage, et il faut qu'il ait beaucoup de détente, de moments de jeu, etc. C'est pour ça qu'en fait, la loi autorise les chiens guides à être lâchés, en fait, dans les squares, dans les parcs, etc. Là où les chiens, normalement, de compagnie doivent être tenus en laisse. Et puis, il y a un body, en fait, spécial de chien guide en détente, qui est orange, qu'on met sur le chien, et ça permet aux bénéficiaires de le lâcher. Donc c'est assez utile quand même pour pouvoir avoir un signe distinctif.
Et du coup, ça rejoint un peu ma question suivante, c'est quand on croise une personne déficiente visuelle avec un chien, il ne faut pas le toucher, c'est quelque chose à ne pas faire justement, parce qu'il est en train de travailler le chien, c'est ça, il ne faut pas le déranger, pas le toucher ou l'appeler.
Bah, je pense que c'est encore plus important pour les chiens guides, mais même en règle générale, c'est mieux de demander en fait au maître en fait si oui. on peut caresser le chien, parce que bah, il peut. Des fois, il y a des maîtres qui sont pas forcément pour. Il y a des chiens qui peuvent avoir des réactions. Alors nous, ils vont pas avoir des réactions de peur ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que il faut imaginer que la personne, elle peut être complètement non voyante. Elle va ressentir tous les mouvements du chien en fait dans le harnais, dans l'étrier. Donc c'est la partie avec la poignée en fait en fer de la tiraille du chien guide. Et c'est vrai qu'après faut imaginer que la personne, si le chien a des mouvements un petit peu complètement brusques d'un coup parce que quelqu'un vient le caresser, la personne va pas forcément comprendre. Alors si c'est un enfant, on peut lui expliquer. Après c'est vrai que c'est aussi aux parents et aux adultes en fait de comprendre qu'il faut demander, s'adresser à la personne avant en fait, demander est-ce qu'on peut caresser le chien. Il y a pas de souci la plupart du temps, mais voilà, faut toujours demander à la personne.
D'où l'importance de l'éducation. Et du coup, dernière question, j'imagine qu'à un moment, ces chiens, ils arrivent à la retraite. Et comment ça se passe? Ils repartent en famille d'accueil ou les familles les gardent jusqu'à ce que...
Bah, en règle générale, la personne, elle le garde jusqu'à ce que malheureusement, bah, il parte. Oui. Et puis, donc à 10 ans, en fait, il est mis en retraite. Et puis, il y a un bilan gériatrique en fait, qui est fait avec plusieurs examens vétérinaires, voir s'il ne faut pas anticiper la mise en retraite à 9 ans. Mais à 10 ans, de toute façon, quoi qu'il arrive, il est mis en retraite et puis la personne le garde. Si elle ne peut pas le garder parce qu'elle peut pas, si elle a besoin d'un autre chien guide après et qu'elle ne peut pas assumer, parce que c'est aussi une prise en charge financière et puis c'est du temps à accorder, si elle ne peut pas prendre en charge de chien guide, enfin de chien, bah son premier chien, on essaie de voir dans son entourage ou dans la première famille qu'il avait, essayer de voir si on trouve toujours une famille de retraite en fait pour qu'il puisse finir ses jours heureux.
Ok, merci Dakota.
Merci Dakota, on reviendra en fin d'émission avec toi pour que tu nous donnes un peu les réseaux, où est-ce qu'on vous retrouve.
Et avant d'écouter Alain et sa déclaration d'amour à sa chienne, on va s'écouter une autre déclaration d'amour. C'est un titre des Beatles sorti en 1968, Martha My Dear. Pour, comme la plupart de leurs chansons qui parlent généralement de la gente féminine et de leur amour pour elle, les fans des Beatles pensent que la Martha en question, c'est une femme. Et pourtant, il se trompe, la chère Martha de l'interprète Paul McCartney est en réalité sa chienne avec laquelle elle a grandi à Liverpool en Angleterre. We'll be right back.
toujours sur Bonjour Turbine. On vient de s'écouter Martha, My Dear, des Beatles. Et Alain est aussi un amoureux des chiens. Et pour preuve, il a eu la chance de partager une partie de sa vie avec Emma, sa chienne qui veille sur lui depuis tout là-haut. On l'écoute nous raconter son histoire.
Depuis bébé, j'avais toujours eu des chattes à la maison, Moumous et puis Bagheera. Nous vivions dans un appartement et ma compagne, qui n'avait connu que des chiens, m'a convaincu d'en adopter un. Lors d'un week-end porte ouverte au refuge de la SPA à Versant, nous sommes donc allés à la recherche de la perle rare. Quand nous avons vu cette petite chienne noire avec une tache blanche sur le poitrail, ça a été immédiatement le coup de foudre réciproque, tant son regard semblait nous dire « adoptez-moi ». Quand nous sommes repartis, c'était avec Emma, dont la chanson de Touré Kunda nous avait inspiré le nom. C'était une petite vogdale, ne vaut rien. Ces petites bâtardes de mère braque et de père inconnu. Nous n'avons jamais regretté ce choix tant celle-ci a toujours été une perle. Elle n'aboyait quasiment jamais, sauf quand le facteur se montrait le bout de sa casquette. Pourquoi mystère ? L'uniforme peut-être, oui, à cette époque, les facteurs portaient un uniforme et une casquette. C'était la crème des toutounes. Quand les enfants étaient petits et qu'ils lui tiraient les oreilles ou la caressaient un peu virilement, comme des petits enfants, quoi, elle nous regardait l'air de dire « faites quelque chose, aidez-moi », mais jamais elle n'a eu le moindre geste agressif envers eux. Le seul qu'elle ait mordu, une unique fois, c'est moi. Il faut dire qu'en jouant avec elle, j'ai soufflé dans son museau à quelques centimètres d'elle, comme un con. Et c'est le geste imbécile de ma part, geste réflexe pour elle, je me suis retrouvé avec une belle marque sur la lèvre. Je n'ai jamais recommencé. Emma était une chienne nageuse, elle adorait l'eau. Quand nous quittions la maison, elle était debout sur la banquette arrière à gémir et remuer. Si nous partions vers la droite, elle se calmait, se couchait immédiatement. La mère n'était pas de ce côté. Si nous partions à gauche, elle était en transe. Arrivée à l'église, une centaine de mètres, si nous partions à gauche, c'était immédiatement terminé. Par contre, vers la droite, c'était l'excitation maximum, jusqu'à la mer, à Luc ou à Coursol. Et là, c'était un bain direct. Un samedi soir, de retour d'une soirée chez des amis, nous habitions Ouistreham à cette époque, il était autour de minuit, nous sommes allés près de l'écluse avant de rentrer. Il y avait beaucoup de monde car la lune était quasiment pleine et on en avait annoncé la marée du siècle et nous voulions voir ça. À peine la porte ouverte, Emma est partie comme une fusée dans la nuit, direction de l'eau. Malheureusement, à cet endroit, c'est une pente raide inclinée. Nous avons entendu les griffes qui tentaient désespérément de freiner sur le béton, puis un plouf, et Emma qui nageait dans l'eau fétide près du sas de l'écluse. Nous avions heureusement une lampe de poche. Une fois repérée la petite chienne, nous avons réussi à lui montrer une sorte de petit trottoir étroit sur lequel elle a réussi à monter, puis nous l'avons guidée jusqu'au gros rocher plus loin, où elle a pu monter et nous rejoindre. Toute tremblante, de froid et de peur, trempée et couverte de saleté, d'huile, puant la mort. Il a fallu la rapatrier jusqu'au coffre de la voiture, il n'était pas question de la mettre dedans. Puis, une fois rentrée, nous avons passé une bonne heure dans la baignoire avec shampoing, savon, pour qu'elle retrouve une allure présentable et désodorisée. Sacré Emma. Un été avant la naissance des enfants, nous avons pendant 2 mois fait un périple en Italie, Turquie, Crète, Grèce et de nouveau l'Italie, plus de 5000 km en auto et en bateau. Nos affaires, vêtements, matériel de camping occupaient tout l'arrière de notre petite 205 rouge. Il restait à Emma un carré de 70 cm de côté au-dessus de tout ça. Au retour, une fois la voiture vidée, il restait un carré de 70 cm de côté, couvert de poils noirs sur le plafond gris. Sur le bateau vers la Turquie, le trajet durait 3 jours. Nous n'avions pas voulu la mettre au chenil et nous l'avions donc cachée dans notre cabine. Le problème, c'est qu'il y avait les besoins. Le premier soir, je me suis discrètement emmené dans un endroit où des embruns étaient envoyés par la mer, un peu houleuse, auraient pu effacer les traces des besoins de la petite chienne. Elle était tellement bien élevée que, malgré mes encouragements, elle s'est retenue. Le lendemain soir, même chose. Mais n'y tenant plus, elle s'est lâchée. Vous auriez vu son regard mêlé de soulagement et de culpabilité. Voilà, c'était Emma.
Eh ben, c'était un super hommage et elle avait l'air d'être super rigolote.
Remember me, Martha, my love.
Eh ben, il nous reste exactement 2 minutes 20. Eh bien, Dakota, est-ce que tu peux nous renseigner comment est-ce qu'on peut retrouver l'association, comment est-ce qu'on peut aider, voilà. Je te laisse répondre en 1 minute 30.
Alors, vous pouvez contacter l'association par téléphone, par mail. Sur le site internet, on a un formulaire de contact. Vous pouvez retrouver notre agenda. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un don sur les diverses plateformes, donc PayPal, Eloasso, sur le site de l'association. Vous retrouvez beaucoup de chiffres qui vont vous donner aussi des bonnes raisons de soutenir l'association, des témoignages, etc. Et puis aussi, là, pour l'instant, on est encore en action, emballage cadeau à Leclerc Jouet, donc à IF, dans la zone CITIF en face de Leclerc Jouet, la nouvelle zone. Et vous retrouverez les acteurs, les chiens de l'école, en fait, qui pourront vous présenter un petit peu l'émission et puis discuter un petit peu avec eux, faire emballer vos cadeaux et puis soutenir un petit peu... l'association. Donc merci beaucoup, merci à vous aussi.
Au plaisir, c'est le moment de faire un beau geste en cette fin d'année. Et alors, il nous reste très peu de temps, Jonathan. Toi, tu as eu un chien à une époque, c'est toi qui nous a soumis l'idée de cette émission.
Oui.
Il me semble que tu as eu une chienne
d'ailleurs. Une chienne, ouais.
Une chienne assez jeune. Allez, il nous reste 30 secondes pour que tu nous donnes des petits conseils. T'es voir un éducateur, un site internet, réseaux sociaux, comment...
Oui, avant de l'adopter, en fait, on s'était renseigné pour savoir comment on faisait pour l'éduquer. Donc, on a regardé pas mal de tutos sur YouTube. Et aussi, il y a un site qui est très bien fait, c'est Esprit Dog. Donc, vous pouvez vous abonner, avoir tous les tips et tout pour apprendre plein de choses à son chien. Et aussi, on est allé voir un éducateur canin. Donc, c'est super important pour le développement du chien, apprendre à vivre avec d'autres chiens. Ça coûte, il faut faire 4-5 séances, ça tout dépend du chien, mais ça coûte environ une quarantaine d'euros l'heure. Et c'est primordial quoi, pour pouvoir bien vivre avec son chien et avec les autres aussi.
Eh ben écoute, le message est passé. Merci Dakota Gauthier de A Vue de Truffe. Merci à Emma de la SPA de Verson. Merci à nos chroniqueuses Léna, David et Alain. À Jonathan pour sa grande première en co-animation. Il s'est débrouillé comme un chef. Et à la plus fidèle d'entre nous, Marion. Alors, chers auditeurs, on prend des vacances. On se retrouve le 9 janvier entre 19h et 20h. D'ici là, on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2025, année de la révolution. Pardon, de la résolution. Oh là là, lapsus révélateur. Allez, à bientôt!